bienvenue dans ce magazine spécial. Nous sommes en direct des locaux de l'association Fenêtre, une association qui vient de s'implanter à Bourg-en-Bresse, avenue Alphonse Baudin, et que nous retrouverons tout au long de la saison sur les ondes de Radio B. Heiner Brinel, vous êtes le président de l'association Fenêtre. Bonjour.
Bonjour.
Frédéric Weber, vous êtes le directeur de l'association. Gérard Lobby, vous êtes membre du CA et en charge de la prévention des addictions. Bonjour.
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 Alors, Fenêtre arrive à Bourg-en-Bresse. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette structure, Heiner Brinel, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Heiner Brinel, c'est un prénom un peu exotique. Je suis d'origine allemande et j'ai passé plus du quart de ma vie ailleurs qu'en France, en partie sur d'autres continents. Et Fenêtre est une structure intéressante à plus d'un titre. Je vais la présenter. Fenêtre est une association qui a trois particularités. La première, c'est qu'elle est structurée de façon horizontale, un peu à l'anglo-saxonne. Ce n'est pas une association à fonctionnement triangulaire avec un chef en haut qui distribue les tâches aux sous-chefs et aux sous-sous-chefs. C'est une structure horizontale où tout le monde peut être à égalité avec l'autre et puis avec les autres et peut discuter. Et les décisions se prennent de façon tout à fait collégiale et pas dirigée. La deuxième particularité, c'est qu'elle fait appel à des acteurs qui sont des libéraux, qui sont des personnes, que ce soit dans le monde social, sanitaire, éducatif, ce sont des gens qui ne dépendent pas d'une structure administrative rigide, qui sont donc à la fois mobiles, souples, et qui apportent des compétences qu'on ne peut pas forcément trouver aussi facilement dans des structures administratives. La troisième particularité, c'est, l'européanisme, c'est-à-dire qu'il y a un adossement très fort à Erasmus et à la Commission européenne. Nous travaillons depuis des années régulièrement avec des équipes qui ont les mêmes missions dans d'autres pays. Et le fait de se confronter avec des Italiens, des Allemands, des Roumains récemment, tous les pays européens sont concernés, bien sûr, mais les expériences dans les différents pays sont très similaires dans les problématiques, mais très différents dans les réponses qu'apportent ces équipes à ces problématiques. Et c'est un enrichissement qui est absolument précieux et qu'on ne trouve pas dans d'autres associations qui sont franco-françaises et très imprégnées par une seule culture, alors que l'ouverture à d'autres culture européenne en particulier, nous apporte une richesse qu'on n'aurait pas autrement.
Voilà. Et quels sont les domaines d'intervention de l'association ?
Alors, les domaines d'intervention, moi, je suis donc médecin, donc on a évidemment une approche sanitaire, mais qui n'est pas institutionnelle, puisque j'ai travaillé toute ma vie dans des hôpitaux. Mais c'est une approche en amont et en aval du sanitaire, c'est-à-dire en amont, c'est la prévention. Là, je parle des addictions. C'est la prévention, c'est le domaine de Gérard, où il est particulièrement compétent.
On en reparlera.
Et puis, en aval, c'est l'accompagnement des personnes qui ont traversé le désert d'une addiction et qui se retrouvent dans la vie et qui doivent se reconstruire. Et cet accompagnement se fait sur un mode de tutorat, où on prend des anciens addicts qui s'en sont sortis et on les met au contact de ceux qui sont encore plus dans les produits, mais qui ont besoin de ce regard, et ce regard les aide éminemment pour trouver les recettes pour résister au risque de replonger dans les produits. Donc, dans le domaine sanitaire, on est en amont et en aval des structures hospitalières ou de consultation spécialisées. Et puis, après, il y a bien sûr toutes les formations d'éducation. Mais là, je vais peut-être en laisser parler mes collègues qui connaissent mieux que moi.
Frédéric, peut-être sur les domaines d'intervention de l'association, ce que vous pouvez compléter, il y a d'autres domaines, vous intervenez de manière très très large, on le comprend.
Oui, alors après, en fait, nous, nos actions, c'est d'abord de la remobilisation jeune. Donc on va, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est d'abord au travers de la prévention, au travers d'ateliers type entrepreneuriat, sur le lien aussi qu'on a établi sur le terrain au fil des rencontres. On a un réseau aussi de partenaires, puisque moi, je suis, mon approche est dans la protection de l'enfant. J'étais directeur de maison d'enfants, donc... Il y a tous les collègues directeurs qui nous envoient aussi des jeunes qui ont des difficultés. Donc le mode d'entrée, ça peut être le décrochage ou alors l'addiction. Et donc on met en place un travail de remobilisation, un travail de lien, d'accompagnement, comme vous avez vu avec Albert, où on lâche pas prise. Et donc voilà pour ces actions. Ensuite, on a un volet européen. Donc on travaille beaucoup la mobilité européenne. Donc ça, c'est un gros travail aussi, où on va faire déjà pour les professionnels des échanges de pratiques. Et on va travailler sur des nouveaux programmes de formation de travailleurs sociaux en Europe. Donc ça m'intéresse parce que je pense que dans notre domaine, il y a des manques. Donc l'idée, c'est d'intercaler entre le système de formation de travailleurs sociaux en France avec ce que font les autres pays européens et puis ce qu'on remarque aussi par rapport aux besoins de terrain. Donc c'est pour ça que la directrice générale de DNCIS, de la formation des travailleurs sociaux, va venir aussi, puisqu'on est en partenariat avec eux. Donc l'idée, c'est à chaque fois de compléter un peu ce qui manque. Et puis le troisième volet, c'est la formation. Donc on a un gros volet, centre de formation, qui est certifié. Et donc l'idée aussi, c'est de dispenser des formations auprès des travailleurs sociaux, mais aussi au niveau des jeunes, notamment sur le développement de l'entrepreneuriat. Donc moi, c'est ce que je fais, parce que je suis enseignant à l'université d'Aix-Marseille, et il y a un statut d'entrepreneur étudiant, et j'aimerais bien le faire, ce que je fais déjà à Marseille, auprès de jeunes qui sont en situation de décrochage, mais qui ont beaucoup d'idées, et donc c'est les accompagner à la création d'entreprises, en fait, en lien avec des réseaux de partenaires qu'on a.
Alors là, vous vous installez à Bourg-en-Bresse, vous êtes déjà implanté dans plusieurs villes de France sur les différentes thématiques que vous venez d'aborder. Concrètement, ici à Bourg-en-Bresse, qu'est-ce que vous allez développer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place?
En fait, déjà, c'est ce qu'on est déjà présent, nous, sur le territoire de l'Ain. On travaille déjà avec des structures sociales et médico-sociales pour des jeunes qui sont en décrochage, c'est-à-dire qui ne se présentent plus dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, avec les intervenants éducateurs ou travailleurs sociaux qui exercent en libéral, ils interviennent directement dans les familles. On a des familles qui nous achètent des prestations d'accompagnement, donc c'est aussi pour nous important pour notre modèle économique. Et puis l'association Fenêtre va aussi chercher, donc on a gagné un appel à projet sur la lutte contre la pauvreté. Donc on a une subvention qui permet à des familles qui n'ont pas les moyens d'accéder justement aux accompagnements avec des travailleurs sociaux qui exercent en libéral. Donc on suit pour le moment une dizaine de familles et de jeunes qui sont en décrochage. Ensuite, on fait de la prévention dans les collèges, lycées, auparavant avec l'ANPA. Et donc là, on va attaquer les préventions. Enfin, Gérard va vous en parler de ce volet-là, donc avec ses interventions. Et puis sinon, on est présent sur le forum mobilité. Et l'idée, c'est de développer la mobilité européenne, nous, avec déjà ce qu'on fait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a... avant, c'était la cohésion sociale qui animait ce groupe de la mobilité. Donc, il y avait tout un tas de partenaires. Et je trouve que c'était intéressant de voir comment chacun aborde la mobilité à sa façon. Et je trouve qu'ensemble, du coup, on est très complémentaires. Et du coup, il y a une richesse qui... Et un échange qui nous permettrait de grossir et de développer ce levier-là qui est super important, un, pour les jeunes, mais aussi pour les professionnels.
Si on revient sur le domaine de la santé, Heiner Brinel, vous l'avez dit, vous étiez médecin addictologue. Le volet santé, il est primordial là, dans les actions que vous mettez en place avec l'association Fenêtre. Quel rôle peut jouer une association comme Fenêtre sur le volet de l'addiction? En tant que médecin, quel témoignage vous pouvez apporter là-dessus?
Les associations dans d'autres pays sont plus actives que les médecins. On est l'exemple des États-Unis. Certaines associations sont très connues, comme les Alcooliques Anonymes. Ils prennent en charge tout le parcours dans la pathologie de ces patients. Les Américains vont très peu dans les cliniques ou dans les hôpitaux pour se faire soigner. Alors, nous, on a une approche plus latine, plus sanitaire, mais compte tenu la misère dans laquelle se retrouvent actuellement les hôpitaux et beaucoup de services de psychiatrie ou d'addictologie. De toute façon, il faut préparer le relais. Peut-être pas sur un modèle américain, mais les associations, ce sont des personnes qui ont traversé cette maladie. Donc ils la connaissent bien, ils la connaissent souvent bien mieux que les médecins ou les psychologues. Ce qui n'empêche pas que ces soignants ont des conseils à donner. Mais qu'on fasse... dans l'hôpital dans lequel je travaillais, on faisait venir systématiquement des associations au contact de nos patients. Ils venaient sur place, dès le début des soins, pendant les soins et après. Et il n'était pas question de lâcher quelqu'un sans qu'il ait pris des engagements auprès d'une association pour que le suivi soit assuré. Donc, je dirais que les associations dans le monde de l'addiction, c'est aussi important que les autres structures, au moins aussi important que les autres structures, puisqu'il y a des pays où c'est même prépondérant. Alors, je ne sais pas dans quel sens les choses vont évoluer en France. Ça dépendra un petit peu des moyens aussi des structures de santé. Mais c'est une réponse possible, qui marche aussi, et qu'il faut développer.
Gérard Lobby, vous êtes le responsable pour l'asso sur la prévention des addictions. Du coup, quels outils est-ce que vous déployez? Qu'est-ce que vous mettez en place sur cette partie prévention pour travailler avec les jeunes, mais peut-être aussi avec des moins jeunes?
Alors, déjà, ce que je voudrais souligner, alors, autour de cette table, il y a le docteur Brunel. Donc, pour l'anecdote, c'est le médecin-chef qui m'a soigné, moi. De l'autre côté, il y a Frédéric Weber. C'était le premier directeur de maison d'enfants à un caractère social à me faire confiance pour intervenir au niveau de sa structure. Quel outil? Non, j'ai pas envie de. Je pense qu'il n'y a pas réellement de remède miracle. Alors, je reviens un petit peu sur l'historique de Bourg-en-Bresse. Moi, ça va faire à peu près une dizaine d'années que je suis présent. On a oublié de le dire, mais il faut aussi peut-être le souligner. La fenêtre, c'est une plateforme de coopération. Donc, il faut aussi bien le souligner. Ah, justement, aujourd'hui, c'est l'inauguration. Ça tombe bien parce que là, finalement, autour de moi, je vois beaucoup de partenaires. Je vois beaucoup de partenaires qui travaillent avec moi. On parle d'indépendants, on parle de coopération. Et la coopération pour arriver justement à pouvoir aider au mieux ces jeunes, au mieux aider ces personnes avec des problèmes d'addiction, elle doit se faire avec tous les partenaires qui sont sur le territoire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les actualités. Docteur Brunel en parlait au niveau de la santé, ça ne va pas fort. Le Covid aussi, ça ne va pas fort. Ce n'est pas terrible. J'ai envie de dire que si on veut réellement se préparer à l'avenir, je pense que ça va être vraiment le moment où il va falloir être solidaire. Mais j'ai envie de dire tous, c'est-à-dire indépendants, associatifs, institutions. Alors c'est vrai que c'est très facile à dire dans la bouche. C'est souvent plus difficile à mettre en place. Mais quand on y met en place, ça fonctionne. Et d'ailleurs, encore la preuve, vu que aujourd'hui ici, si on fait un tour de table, il y a aussi des personnes qui sont en institution.
Qu'est-ce qui est prévu pour aller à la rencontre des jeunes? Qu'est-ce qui va être mis en place en termes de partenariat? Vous l'avez dit, les partenariats, ça va être essentiel pour l'association. Qu'est-ce qui va être mis en place concrètement?
Alors bon, c'est vrai que moi, si on veut un conseil sur les addictions, je vais être calé. Moi, l'accompagnement, c'est vrai que j'en fais un petit peu, mais c'est pas spécialement ma tasse de thé. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'on travaille en coopération. Par exemple, je le vois depuis des années avec la sauvegarde de l'Ain. C'est indispensable parce que déjà d'une, moi, je suis pas tout le temps sur le territoire. L'idée, alors je vais résumer ça en disant, l'addiction, c'est la maladie du lien. Et nous, notre but, c'est de créer du lien. Créer un lien de confiance avec les personnes avec qui on va prendre en charge. J'ai envie de dire, vous connaissez le dicton, seul on avance, ensemble on va plus loin. Et je vais encore vraiment répéter ça. Ça paraît... Mais je pense que c'est réellement d'actualité. Je le dis même aux jeunes, aux parents, à tout le monde. Il va vraiment falloir être solidaire parce que ce qui va arriver derrière en termes de crise sociale, vous le savez, avec ce qu'on a traversé. Donc... L'intérêt, c'est tous ensemble dans le même but pour le bien-être de notre jeunesse.
Vous êtes aussi le président d'une association qui s'appelle Stop Chute. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement?
Oui. Alors, pour revenir à l'anecdote ou le système associatif, moi, j'étais soigné, comme je vous l'ai dit, par le docteur Brunel. Je ne me retrouvais pas dans le système associatif à l'époque. Quand je lui en ai parlé, il me dit, écoute, ça tombe bien. Moi, je suis un ancien, je travaillais chez Vinci. Je travaillais chez Vinci Construction. Il m'a dit, écoute, ça tombe bien. Il y a 14 ans, c'était le métier le plus touché par les addictions. Donc, il m'a conseillé, non seulement il m'a soigné, mais il m'a conseillé aussi de m'orienter dans ce domaine-là. On a travaillé ensemble. Bon, après, c'est vrai que j'ai eu un coup de chance. Voilà, la Fondation Vinci Paris pour la Cité m'a soutenu, m'a suivi financièrement. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. D'où l'importance du lien. C'est vrai que s'il y a 15 ans, on m'avait dit que le docteur Brunel, ancien médecin-chef du service addictologie de l'Arbrel, allait devenir un ami et le président de notre collectif, je vous avoue que j'aurais peut-être eu du mal à y croire.
Allez-y.
Oui, je voudrais peut-être ajouter, Gérard, que Gérard a créé Stop Chute il y a déjà une douzaine d'années au moins, 15 ans, parce qu'il n'existait aucune association qui prenait en charge les personnes dépendantes du cannabis. Et c'est une drogue qui n'a pas cessé de se développer depuis, qui pose de plus en plus de problèmes. On parle de décrochage scolaire, c'est très souvent lié à la consommation de cannabis. Donc il était vraiment précurseur parce que après d'autres associations se sont ont élargi leur champ d'intervention par rapport à l'alcool pour prendre en charge d'autres produits. Mais Gérard a été le premier. Et c'est vrai que ça comblait un manque. Et moi, j'avais suggéré, s'il y avait une association à créer, c'est quand même pouvoir s'occuper de patients qui sont ou qui ont été dépendants de cannabis. Parce que c'est quelque chose, comme d'autres produits, qui poursuivent après les cerveaux des victimes. Et c'est très important. Je voulais faire une deuxième remarque. Depuis 50 ans, le budget mondial de la drogue est le même que le budget mondial du pétrole. C'est dire à quel point ces cercles sont puissants, ont un pouvoir incroyable. Donc nous, petites associations, on est là, on essaie de défendre nos patients et nos idées. Mais c'est vrai qu'on est tout petit à côté des barons de la drogue. Et on ne se fait pas trop d'illusions sur les pouvoirs respectifs qu'on peut avoir. Nos pouvoirs, c'est pouvoir aider les autres. Et c'est déjà une bonne chose au départ.
Frédéric Weber, un autre domaine dans lequel intervient Fenêtre, c'est celui de la mobilité à l'échelle de l'Europe. On a commencé à en parler. Quels sont les projets qui ont pu être mis en place déjà au sein de l'association? Et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer à Bourg-en-Bresse sur ce niveau-là?
L'association fait partir, alors avant la crise du Covid, à peu près une centaine de jeunes en mobilité européenne, donc sous la forme de, au travers des programmes Erasmus+, et des échanges de jeunes en fait. Donc on a à peu près un à deux départs par mois. Là ça reprend, on a un groupe qui repart à la fin du mois, plus un autre en décembre. Donc en fait, le principe c'est de se retrouver en Europe avec d'autres groupes de jeunes de différents pays et pour travailler sur des programmes qu'on appelle d'éducation non formelle, ce sont des programmes stricts, parce que la Commission européenne va valider des projets, mais avec des structurations très, très précises et avec des budgets qui permettent de prendre en charge en fait, tout ce qui est le transport, l'hébergement et puis l'organisation en fait, du programme d'activité sur place. Donc il y a à peu près une trentaine de jeunes qui se retrouvent sur des thématiques liées au fait aux compétences sociales et transversales, donc le vivre ensemble généralement, avec la solidarité, la citoyenneté active, le climat, l'interculturalité, l'entrepreneuriat aussi. Et donc voilà, on a des jeunes qui s'inscrivent. Et ce qui est intéressant, c'est un peu le croisement en fait des publics qui participent à ces échanges. Donc on a des jeunes qui sont étudiants, mais aussi ceux qui sont décrocheurs ou avec des difficultés, notamment des addictions. Et c'est ce panel-là. Il y a une motivation à se retrouver ensemble autour d'un projet commun sur des thématiques et on ne prend pas forcément en compte la difficulté de chacun, que nous on va travailler individuellement en fait. Donc c'est ça la richesse. Et le deuxième volet, on a à peu près une cinquantaine de professionnels qui partent en Europe chaque année pour des échanges de pratiques. Donc on s'est entraîné depuis ces dernières années avec une association qui s'appelle Eurocircle et là qui nous a appris à monter les projets européens, à travailler justement les préparations au départ, les accompagnements pendant les séjours et les retours de ces échanges-là. Et puis maintenant, Fenêtre a pris ce volet-là et a ce savoir-faire maintenant avec des experts Alors, on travaille, nous, avec, vous l'aurez compris, des indépendants. Une plateforme, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir le moins de salariés possible. Parce que c'est une masse salariale, c'est un coût. Alors que là, on a des indépendants qui jouent un rôle dans leur domaine de compétences. Donc, on en a à peu près 5 qui se trouvent en Europe, qui travaillent nos projets en lien avec ce qu'on fait, qui les déposent à l'agence française. Et puis là, par exemple, on a à peu près, on a travaillé des gros projets maintenant, ce qu'on appelle les partenariats stratégiques. Et on a donc maintenant 5 gros partenariats stratégiques. C'est plus de 500 000 euros de budget. Et donc, ça permet justement de prévoir des départs en Europe pour travailler des thématiques d'une façon plus approfondie. Et donc, dès début décembre, on a déjà un partenariat stratégique qui va se faire à Bourg-en-Bresse sur les questions de l'interculturalité et un autre sur le soutien à la parentalité. Donc, on aura des Européens qui viendront ici pour découvrir Bourg-en-Bresse et les problématiques liées à l'interculturalité.
Vous allez participer au forum autour de la mobilité internationale qui a lieu à Bourg-en-Bresse. Concrètement, qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes qui vont se présenter à vous? Comment vous allez pouvoir les accompagner?
Comment on les accompagne? Comme on le fait d'habitude. Donc, ceux qui veulent partir en Europe, on va leur faire des propositions au départ. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les surprend toujours en disant, tiens, j'aimerais, il y a des jeunes qui disent, moi, j'aimerais bien partir. Écoute, si tu veux, tu pars la semaine prochaine. Et là, ça les met un peu en panique. Donc, l'idée, c'est d'être réactif et de les accompagner. Donc, il y a des papiers, il y a la découverte du programme, de voir comment il va s'y intégrer, c'est faire le groupe de jeunes qui va partir, faire connaissance et puis après vivre la mobilité. Et on fait ensuite un bilan et puis on voit un peu les ressorts, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui quand même, on est dans un monde de mobilité, on est dans le monde du numérique. Et je trouve que dans les subventions qu'on a dans les associations, que nous on touche pas, parce que c'est notre choix, on nous contraint à rester sur un territoire. Alors qu'aujourd'hui, nous, on a des jeunes, par exemple, le groupe, là, il y en a de Marseille, il peut en avoir de Clermont-Ferrand ou d'ici. Le but, ce n'est pas de cloisonner, justement. C'est la richesse de se retrouver ensemble. Et là, l'interculturalité, elle se fait même sur le territoire français. Parce qu'on ne parle pas toujours le même dialecte selon les territoires en France. Et même ça, c'est une richesse, en fait. Voilà.
Vous avez aussi évoqué la thématique de la parentalité. Ces jeunes, ils ont des parents, c'est vrai, il ne faut pas les oublier. Déjà, ça veut dire quoi, la parentalité, pour vous, Fenêtre?
Pour nous, Fenêtre, la parentalité, c'est comment on joue son rôle de parent, en fait, avec justement les problématiques d'aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a pas mal de parents que la grosse problématique aujourd'hui, c'est la gestion des écrans à la maison. Et donc, par exemple, quand on fait des préventions sur les addictions aux écrans, et on le fait en réunion Zoom, on a à peu près entre 100 et 200 participants. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on le fait à 19h, c'est la prévention qui s'invite dans les familles. Et ensuite, on a toujours des mails de parents qui nous disent, en fait, on a un vrai souci, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Et après, on met en place un accompagnement avec les préventeurs. On a aussi quand même un médecin psychiatre qui va faire des permanences. Et on a des travailleurs sociaux qui sont spécialisés en la matière, qui accompagnent justement les parents au domicile. Voilà un peu ce qu'on fait sur la parentalité. Et on travaille avec des associations lors de la plateforme. Donc, il y a une association dans l'Ain qui s'appelle SAVE qui travaille sur les violences conjugales. Donc, qui va faire partie aussi de la plateforme ici, qui va occuper le terrain. Donc, voilà comment on va travailler. Soutien à la parentalité. D'autres jeunes, comme je le disais, dont les enfants sont placés ou les enfants sont en centres médico-sociaux, mais qui sont soit en fugue, soit en décrochage. Et donc là, nous, on va reprendre le relais. Voilà.
Il existe quand même déjà des dispositifs qui sont mis en place par la CAF, par le département. Comment vous allez vous intégrer dans ce qui existe déjà? Qu'est-ce qui est prévu de faire?
Nous, pour l'instant, je suis un peu provocateur, mais le but, c'est pas trop de s'intégrer, mais c'est de continuer à faire ce qu'on fait. On a pas mal de demandes. Nous, en fait, l'idée, ce qui se passe, c'est que on veut pas trop être dans les dispositifs parce qu'on voudrait que les familles ou les jeunes aient le libre choix de leur accompagnement et des accompagnants. Et les dispositifs, eux, ils sont très verticaux, ce qui fait qu'on prend les familles ou les jeunes, on les met dans une moulinette, dans une sorte de dispositif qui font que finalement, on leur laisse plus trop le choix de se défendre ou d'évoquer leurs vraies problématiques. Donc, en fait, nous, on prend le problème à l'envers, une approche, comme on dit, par le terrain, qui permettent justement aux parents d'exprimer leurs vraies difficultés, puis sous une forme, en fait... on va dire un peu plus pour nous démocratique, quoi. C'est une famille. Les problèmes ne doivent pas être tabous parce que toute famille a des difficultés, mais vous le verrez par la suite.
Alors aujourd'hui, on est justement dans un local que vous venez d'inaugurer au 11 avenue Alphonse Baudin à Bourg. Peut-être que ce lieu, c'est justement la porte d'entrée vers l'association. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des infos sur le fonctionnement ? Comment est-ce qu'il va vivre ?
Oui. Alors, l'idée du lieu, ça va de jouer déjà, c'est de permettre de jouer son rôle de plateforme. C'est-à-dire qu'on aura des permanences ici, que ce soit des associations qui seront partenaires pour travailler le soutien à la parentalité. On aura des associations qui s'occupent de l'entrepreneuriat. On aura des permanences pour la mobilité européenne. Donc, on va mettre un planning, en fait, de permanents qui seront là pour faire tourner le lieu. Ça, c'est une première chose. Et puis souvent, comme on nous dit, ça fait peut-être 5 ans qu'on occupe le terrain dans l'Ain sur des actions. Mais quand on demande les subventions, on dit oui, mais vous n'êtes pas implanté. Ben, maintenant, on est implanté. Comme ça, on pourra peut-être demander des subventions. Et l'idée, en fait, l'objectif pour nous, c'est de mettre en place un permanent, quoi. Ici, un coordonnateur de plateforme qui va pouvoir un peu étendre le réseau, parce qu'on ne pourra pas tout faire, vous l'aurez compris, on est dans plusieurs lieux, mais pour l'instant, on va tourner comme ça, quoi.
Comment on a accès à toutes ces informations sur les permanences, les horaires, les dates ? Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook ?
Il y a surtout la page Facebook où il y aura toutes les informations, donc la page Facebook Asso Fenêtre. Le site, il doit être remodelé, mais là aussi... c'est en cours de préparation puisque pour l'instant on a 2 sites, il faut qu'on en fusionne. Puis sinon, le principe aussi d'ici qu'on expérimente, c'est un principe de boutique, c'est-à-dire qu'on va permettre à des familles, donc on va le faire d'une certaine façon aussi, d'acheter ou d'accéder à des prestations d'accompagnement selon les thématiques. Et voilà, donc on va mettre en place une sorte de packaging de prestations d'accompagnement qu'on est en train de travailler, quoi. Voilà,
mais... Une dernière question avant de se quitter. Est-ce qu'on a déjà des dates à noter dans nos agendas, des événements qui nous attendent avec l'association Fenêtre ?
Mais oui, bien sûr.
Le 24 novembre, donc on pourra retrouver l'association Fenêtre le 24 novembre au Forum de la mobilité internationale.
Du 7 au 9, donc on a un projet européen ici.
Décembre,
donc, qui se fera pendant 3 jours sous la forme de formation qu'on travaille avec 5 partenaires européens, donc les Roumains, les Espagnols, les Italiens, les Turcs et l'Estonie, qui sera là pour travailler des programmes de formation liés à l'interculturalité.
Merci pour toutes ces informations. Merci Heiner Brinel. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fenêtre. Merci Frédéric Weiber, le directeur, et Gérard Lobby en charge de la prévention. Et puis merci à Jimmy Franqui à la technique. On se retrouve en 2022 avec vous, Association Fenêtre, pour une prochaine émission. À bientôt.
Merci beaucoup.